Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche. Je m'appelle Cécile Tovel et depuis 2012, j'entreprends en couple avec mon mari Antoine. Vous aimez les histoires de couple, vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux, ce podcast est créé pour vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice de Rochechouart. Alice est docteure en philosophie. Elle a publié un livre consacré à la philosophie contemporaine française, L'insomnie de l'eschatologie, en 2022. En 2023, elle a créé le Fil d'Actu, un podcast de philosophie accessible et engagé, dans lequel elle décortique l'actualité avec un prisme philosophique, deux fois par semaine, en 10 minutes. Alice défend une philosophie ancrée dans la réalité et dans le quotidien, qui touche à tous les sujets de société, plutôt qu'une philosophie désincarnée et inaccessible. Dans un monde souvent anxiogène et pessimiste, elle cherche à prendre un peu de recul pour montrer qu'une autre société est possible. N'oubliez pas, si vous appréciez cet épisode, partagez-le à des personnes qu'il pourrait inspirer ou laissez-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et maintenant, place à Alice de Rochechouart. Bonjour Alice.
Bonjour Cécile.
Bienvenue sur le podcast Pop In. Et ma question traditionnelle, c'est qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin ?
Alors, ce qui me donne la pêche dès le matin, c'est quand mon fils m'appelle, je l'entends à travers le mur. Donc, il me dit « Maman, je suis réveillée, je vais le chercher. » Il a 2 ans et demi. Et là, je viens le chercher et je le mets dans notre lit avec son père. Et là, on passe 5-10 minutes à… Bon, il nous tape un peu, il nous fait des câlins, ça dépend des humeurs. Mais voilà, c'est un moment assez sympa.
Très bien. Aujourd'hui, nous abordons ensemble le couple à travers le regard de la philosophie, un sujet ou le regard des philosophes, un sujet qui m'intéresse particulièrement puisque au tout début de notre relation avec Antoine, on parlait énormément de philosophie. Donc voilà, je suis ravie d'aborder ce thème avec toi. Quel philosophe parle du couple ?
Alors, à la fois tous et aucun. Un peu le paradoxe. Finalement, les philosophes, ils parlent pas tellement du couple, qui est un peu la vie quotidienne, conjugale, un peu triviale. C'est pas tellement digne des philosophes, quoi, si tu veux. Mais ils vont plutôt parler de l'amour, en fait. Et l'amour et le couple sont pas tout le temps liés. Et dans l'histoire, ils le sont même pas tellement, en fait, en réalité. On considère que le couple est plutôt une institution sociale. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Et l'amour, c'est encore autre chose, quoi, qui finalement est parfois totalement distinct du couple. Donc, il faudrait plutôt poser la question, quel philosophe parle de l'amour en réalité ? Voilà, donc si je m'autopose cette question, tu me dis si ça te convient.
Tu as le droit de t'autoposer cette question.
Alors, je m'autopose cette question. Et en suivant un peu l'analyse que fait Alain Badiou, qui est un philosophe contemporain dont on aura l'occasion de reparler également, je pense, il distingue un peu deux manières différentes de parler de l'amour, deux grandes familles de philosophes. Alors, d'un côté, il y a les philosophes qui ont une conception assez romantique de l'amour, qui se focalisent sur l'extase de la rencontre, qui font de l'amour quelque chose qui élève au divin, à l'universel, quasiment, en fonction des époques. Hein, je pourrais donner des détails après si tu le désires. Et ensuite, il y a donc cette première conception qui va complètement exalter l'amour et la rencontre des premiers jours, mais en général, qui ne parle pas tellement de ce qui se passe une fois qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et la deuxième conception, c'est plutôt la conception un peu sceptique qui va considérer l'amour comme une illusion, voire quelque chose qu'il faut fuir absolument, qui rend malheureux, quelque chose dont il faut se défaire à tout prix. Voilà.
On va détailler, du coup, ça m'intéresse vraiment ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on peut, selon toi, retenir quand même au-delà de ces deux conceptions ?
Alors, à mon sens, je trouve que finalement, quand tu lis ces philosophes-là, ce qu'ils disent de l'amour, voilà, je vais être un petit peu provocatrice, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en retenir parce que on a l'impression qu'ils ne parlent pas tellement de l'amour réel, mais plutôt d'un amour un peu fantasmé ou d'un amour un peu détesté. Voilà. Ou alors d'un amour qui est tellement fugace que voilà, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite, quoi. Et je trouve que sous prétexte de chercher l'universalité, la beauté, l'éternité, eh ben, il manque en fait ce qui fait la réalité de l'amour, c'est-à-dire surtout à notre époque, la vie conjugale, le choix répété quotidiennement d'être avec quelqu'un. Et voilà, si l'amour c'était juste les premiers instants, ça se saurait, ce serait beaucoup plus facile. Et c'est pas le cas. Et il y a très peu de philosophes, je trouve, qui réussissent à saisir ça, à saisir cette complexité, cette profondeur de l'amour. Il y a Alain Badiou qui en parle. Alain Badiou, c'est un philosophe contemporain, hein, il est encore vivant. Alors c'est peut-être pas un hasard aussi si c'est un philosophe contemporain qui arrive à parler du couple, parce que comme je le disais tout à l'heure aussi. Le couple n'est pas forcément lié à l'amour pendant très longtemps. Ça, c'est vraiment la conception moderne du couple. Et finalement, pendant assez longtemps, jusqu'au siècle des Lumières et encore un peu après, il y a le couple, qui est l'institution maritale, qui est une institution plutôt politique, qui est pas par amour, mais par choix, quoi. Et l'amour, c'est l'extra-conjugal, en fait. Donc, c'est dissocié, c'est même opposé, en réalité. On aime en dehors du mariage. Et si. Presque là, je lisais quelque chose là-dessus tout à l'heure qui m'amusait. C'était sur Catherine de Médicis, donc cette reine qui était bêtement amoureuse de son mari, le roi. Et finalement, c'était considéré comme une faiblesse de sa part. Voilà. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est qu'il y avait une radicalité dans cette conception de l'amour qui était hors du couple. Et donc, les philosophes, éventuellement, parlent de cet amour extra-conjugal, mais ils sont incapables de parler du couple. Ils sont incapables de parler de cette vie quotidienne et de cette institution. Donc, ce n'est pas étonnant s'il faut aller chercher chez les philosophes contemporains, parce que maintenant, on a une conception où amour et couple sont liés, où l'amour est la condition du couple. On se met en couple par choix et on veut aimer. Et donc, on ne peut pas parler de l'amour sans parler de la vie quotidienne et sans parler de la conjugalité. Voilà. Donc, à mon sens, ce n'est pas étonnant qu'il faille aller chercher chez un philosophe contemporain. Voilà, je suis en train de faire un monologue, mais je peux enchaîner sur ce que dit Badiou. Tu me dis si tu veux
Vas-y,
poser une autre
vas-y,
question.
justement. Non, non, au contraire, parce que justement, je me posais la question de. Et je voulais te poser la question, mais tu as commencé à y répondre. Le couple n'est-il qu'une institution sociale? Par le passé, peut-être, et aujourd'hui?
Moi, j'ai envie de dire, oui, c'est une institution sociale encore aujourd'hui. C'est 100% une institution sociale. Ça n'est qu'une institution sociale dans le sens où on ne peut pas prouver une naturalité du couple. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Pas quelque... Voilà, la preuve de ça, c'est que les formes de famille, de couple, sont extrêmement différentes au cours de l'histoire et partout dans le monde. Bon, une fois qu'on a dit ça... Qu'est-ce qu'on en tire? Est-ce que c'est un problème que ce soit pas quelque chose de naturel? Est-ce que ça disqualifie le couple ou est-ce que c'est péjoratif? À mon sens, pas du tout. Je pense qu'au contraire, on peut définir l'homme comme étant quasiment intégralement culturel, ou en tout cas, peut-être que l'homme, c'est l'espèce qui arrive le plus à se détacher de sa nature. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on construit culturellement. Donc, à mon avis, oui, le couple est une institution sociale, mais et alors? Peut-être tant mieux. Ça lui donne aussi, et c'est peut-être même assez stimulant et enthousiasmant, ça lui donne une plasticité, c'est-à-dire qu'on peut inventer le couple aussi. Si ça ne fait pas référence à quelque chose de naturel, on n'est pas bridé par une nature. On peut inventer le couple qui nous convient à une époque donnée ou au sein d'une société donnée en fonction de personnalité. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, que ce soit une institution sociale. Il ne faut pas que ça devienne un carcan, ça c'est l'autre point. Mais ça peut devenir quelque chose de très stimulant et quelque chose à réinventer. Voilà.
Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de passer à la question sur le couple de philosophes qui a travaillé ensemble?
Je vais peut-être parler de Badiou rapidement, parce que je
Oui.
disais donc qu'il a parlé de la conjugalité et il a écrit un ouvrage vraiment, j'ai trouvé vraiment très beau sur l'amour, très beau par son côté donner de la beauté à la quotidienneté, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez les philosophes, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qu'il dit, je trouve ça absolument magnifique. Il dit en fait, le couple, c'est pas chercher l'unité, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas chercher la fusion. Ça, c'est des vieux mythes qu'on a, c'est le mythe hérité de Platon, où on dit, voilà, on cherche son âme sœur et on va former, nous sommes deux êtres séparés, et nous allons reformer un seul être, fusionner. Voilà. Badiou dit, non, 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 ça, c'est si on cherche l'unité, l'identité, la fusion. En réalité, c'est un schéma de domination. C'est qu'il y en a un des deux qui va chercher à absorber l'autre. Il dit, Badiou, l'amour et le couple, c'est la différence. C'est le point de vue à partir de deux. Le point de vue à partir de l'altérité. En fait, ce que lui, il défend dans le couple, c'est le fait d'arriver à construire un monde à partir de deux points de vue différents. Donc finalement, et c'est là où je trouve ça absolument magnifique, c'est on construit un monde d'un point de vue décentré de soi-même. Et donc, c'est la relation éthique première, en fait. on va se tous les jours s'ouvrir à une altérité, s'ouvrir à quelqu'un qui n'est pas soi, et toujours, être ébloui par cette altérité qu'on aime. Voilà. Et donc, l'amour, c'est pas la fusion, mais c'est la différence. Et je trouve ça hyper intéressant parce que à ce moment-là, on comprend bien comment on va construire la conjugalité. On va pas essayer de nier parfois les problèmes qui viennent de cette différence-là, mais on en fait une force justement. Et on en fait une construction d'un monde et une construction d'une éthique et d'un respect de l'autre. Voilà. Mmh.
Bah d'ailleurs, dans les épisodes que j'ai enregistrés avec les couples qui ont choisi de travailler ensemble, ce qui ressort le plus, c'est la complémentarité, donc forcément la différence. Si les
Exactement.
personnes sont identiques, elles ne peuvent pas travailler ensemble, en fait, sinon elles n'ont pas leur place. Donc,
Voilà.
c'est tout à fait cohérent. Merci beaucoup pour l'explication. En plus, je ne connaissais pas ce philosophe, donc je vais aller lire. alors, voilà, je voulais te poser cette question de est-ce qu'il y a un couple, j'ai un peu ma petite réponse, mais est-ce qu'il y a un couple de philosophes qui a travaillé ensemble?
Alors oui, mais c'est pas extrêmement désirable. Je vais vous en parler un tout petit peu parce que c'est un couple, vous avez peut-être deviné déjà, mais c'est évidemment Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Couple phare s'il en est, de la Seconde Guerre mondiale et après, donc la grande époque de l'intellectualisme français. Et Sartre et Beauvoir, voilà, qui sont tous les deux très engagés politiquement à gauche. Ils ont une espèce d'aura incroyable de l'un des intellectuels. Et ils ont un couple qui est particulier parce qu'ils sortent totalement des conventions sociales. Ils décident, et c'est su partout à l'époque, d'avoir un. Alors, déjà, ils commencent leur relation comme étant un bail renouvelable de 2 ans, donc un contrat, voilà. Puis finalement, ils en font un CDI, quoi, en gros, pour employer un terme contemporain, mais c'est vraiment ça qui se passe. Mais ils décident que c'est eux, ils ont un amour qui est nécessaire, comme une espèce de destin, mais il leur faut des amours contingentes à côté. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, au cours des petits épisodes, voilà. Donc, c'est une relation ouverte. Ils décident de ne pas se marier. Bon, dans ces années-là, années 50, 40-50, vous voyez que c'est quand même un peu, c'est audacieux. Donc, là, on se dit, oh là là, mais quel souffle de liberté, c'est incroyable. Ils restent ensemble jusqu'à leur mort, finalement. Est-ce que c'est pas, là, bon, bref, je vous laisse finir la phrase comme vous le souhaitez. En réalité, quand on regarde un petit peu plus près ce qui se passe dans leur couple, et on peut regarder de manière très simple, c'est qu'on a accès à leur correspondance qui a été publiée, puis une autobiographie de Beauvoir. Bon, même les correspondances, elles ont quand même été un peu censurées parce que, auto-censurées par Beauvoir, parce qu'il y avait des passages qui choquent un peu. Et en fait, on se rend compte quand on lit, quand on découvre un peu la relation, que c'est vraiment pas très souhaitable. Déjà, il y a une hiérarchie entre les deux, c'est-à-dire que Sartre est considéré quand même comme étant supérieur à Beauvoir. Beauvoir elle-même dit qu'elle se sent en infériorité hein, depuis leur rencontre. Hein. Elle se met elle-même en position de compagne de Sartre, d'auxiliaire en fait de sa pensée. Alors, ils réfléchissent ensemble, ils parlent ensemble, et donc leurs pensées, leurs philosophies s'imprègnent l'une de l'autre. Mais il y a quand même une hiérarchie très claire. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est Sartre qui est considéré comme le philosophe et Beauvoir se considère plutôt comme écrivaine, hein, à vrai dire. Ce qui est intéressant, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, Sartre est un petit peu oublié, ou en tout cas, il est moins bien considéré, alors que Beauvoir a une nouvelle aura, une nouvelle aura féministe. Bon, c'est intéressant. Et si on rentre encore plus dans leur intimité, il y a des dimensions, des relations de pouvoir qui sont un peu déplaisantes, avec notamment la manipulation de jeunes femmes qui, dans des espèces de ménages à trois, où Beauvoir fournit des femmes à Sartre. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement déplaisantes, qui aujourd'hui ne passeraient pas du tout dans l'opinion populaire. Enfin, c'est vraiment assez choquant, en fait. Il y a des histoires qui sont très choquantes, à tel point qu'il y a des féministes qui disent « Oui, mais on se réclame de Beauvoir, mais c'est compliqué parce qu'elle a fait des choses elle-même très, très largement discutables, quoi. » Bon. Bref, je rentre un peu moins dans les détails, vous pourrez regarder si vous souhaitez. Donc voilà, le couple est vraiment pas enviable. Et de toute façon, il faut quand même dire que la philosophie se prête pas forcément, ou en tout cas le couple philosophique, il n'y a pas beaucoup d'exemples en réalité dans l'histoire, parce que la philosophie, ça reste quand même une discipline assez menée par l'ego, quand même, assez dominée par l'ego des philosophes qui la pratiquent. Et c'est très, alors ça, c'est une phrase de Nietzsche hein, qui disait. Toute grande philosophie n'est que la confession de son auteur. On comprend bien pourquoi c'est pas vraiment du travail à quatre mains. Ou alors, c'est du travail fait sur l'exploitation, c'est un peu excessif, mais du travail de la femme. Mais donc, y a assez peu d'égalité, finalement, dans les couples de philosophes. C'est assez rare, à l'inverse. Voilà. J'ai répondu un peu longuement, pardon, mais c'est pour dire que Sartre
Merci.
et Beauvoir, c'est un exemple quand même intéressant, mais assez, finalement, symptomatique d'une relation de pouvoir.
Et alors là, on va partir à l'inverse. Si des philosophes devaient donner un conseil aux couples qui travaillent ensemble, à ton avis, quels seraient ces conseils?
C'est une question très difficile parce que je ne sais pas si les philosophes iraient se confronter à cette question-là pour les raisons que j'ai évoquées, hein, le côté un petit peu trop pragmatique, voilà, hein, voire prosaïque de la question.
Il sera baissé
Bon.
pas à ça, mais bon, je pose quand même la question, hein.
Non, 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 mais c'est une question intéressante qu'on peut se poser. On peut essayer de... Ouais, on peut se poser cette question. Alors, si on pose la question à des philosophes existants, ils te diront, bah, si tu veux travailler avec ta femme, vole-lui son travail, quoi. Non, bon, j'exagère un peu. Ne considère pas trop son travail, ce n'est pas ton égal. Bon, la philosophie est assez misogyne dans l'ensemble, faut quand même l'admettre. Mais je pense qu'on peut, pour être un petit peu plus sérieuse et un petit peu plus constructive, on peut aller rechercher Badiou, à mon avis. On peut aller rechercher Badiou avec cette idée, justement, dont on parlait tout à l'heure, de l'amour en commettant la construction d'un monde à deux. Et donc se dire que voilà, on part d'une amitié commune qui a un certain nombre de valeurs en commun, d'une vision du monde partagée, mais avec une altérité irréductible qu'il ne faut absolument jamais chercher à réduire et qui ouvre une richesse. Voilà. Donc je pense peut-être se dire, essayer de tous les jours d'être émerveillé par l'altérité de l'autre plutôt que d'être éventuellement énervé par le fait qu'il ne fait pas pareil que nous, quoi. Et l'autre, alors un autre, peut-être, c'est quelque chose que j'avais lu mais il y a quelques années, mais je ne parviens pas à me souvenir de qui avait dit ça. Mais j'avais trouvé ça assez intéressant. Il disait peut-être qu'un des secrets de longévité aussi des couples, c'est de voir l'autre briller dans son milieu, quoi. Et que finalement, bah, quand on travaille ensemble, on a l'occasion de voir son partenaire avec un regard d'admiration. Justement, sort un petit peu aussi de la quotidienneté des tâches ménagères et qui le place ou la place dans un contexte où la personne peut briller et où à nouveau on va avoir ce regard un peu magnifique d'admiration. Voilà. Bon, c'est pas forcément très. Enfin, si, c'est un peu philosophique, on n'a qu'à dire ça.
Si,
Allez.
si. Et puis je partage complètement parce que je pense que s'il y a une admiration de l'autre, ça fait vraiment perdurer le couple. Voilà, je pense que c'est chouette. Il faut que ce soit réciproque.
Bien
Mais
sûr.
voilà, ouais, t'es très intéressant. Merci. Et alors j'ai une dernière question quand même pour finir l'épisode avec une touche de légèreté ou pas. Ça dépend de quelle citation tu vas choisir. Est-ce que justement tu aurais une citation que tu aimes et que tu
Alors,
souhaites
une citation
partager?
que, oui, j'ai trouvé une citation que j'aime beaucoup, qui est de Rilke, qui est un écrivain, donc pas un philosophe, mais qui a quand même une phrase magnifique sur l'amour, parce que je trouve qu'elle permet de se dire que l'amour n'est pas forcément quelque chose d'éthique en soi. Il n'y a pas une espèce de magie. Si vous êtes amoureux, vous êtes tout de suite transcendé, vous devenez, vous touchez les cieux, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que il voit l'amour comme quelque chose qui vous donne la possibilité de vous élever. En fait, ce qui est éthique dans l'amour, c'est ce qu'on en fait. Est-ce que ça fait de. Est-ce que... Est-ce que... Comment on va avoir ça comme oui, comme une exigence envers soi-même? Donc, je vous lis enfin la citation après cette introduction. Alors, c'est l'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large. Voilà. Je trouve ça assez beau.
Magnifique, je suis d'accord avec toi, c'est très beau. Merci beaucoup pour ce partage et puis pour toutes les recherches que tu as menées pour cet épisode et aussi pour le tien qui a du coup été paru pour la Saint-Valentin. Donc j'invite tous nos auditeurs à aller écouter cet épisode que tu avais fait où tu donnes un peu une philosophie de l'amour. Voilà, et ça complète du coup ce que tu viens de dire aujourd'hui. Et puis je te remercie infiniment pour ce partage et je te dis à très bientôt.
Merci à toi Cécile pour l'invitation et j'étais ravie de répondre à toutes ces questions.
Merci d'avoir écouté cet épisode du jour. Alors, qu'avez-vous appris grâce à l'échange avec Alice? Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message. Vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup. Je vous invite encore une fois à vous abonner au podcast d'Alice qui s'appelle Le Fil d'Actu. dans lequel elle décortique l'actualité avec un prisme philosophique. Comme moi, Alice a choisi un format court, facile à écouter. À bientôt sur Popine !